Littérairement votre.
Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous. Eh bien voilà, ça fait un an que nous chatouillons vos oreilles avec des histoires littéraires, des biographies, des auteurs que vous découvrez ou vous redécouvrez. Un an déjà, comme le temps passe vite. Mais Jean-Paul, qui allons-nous évoquer aujourd'hui? Dis-moi.
Bonjour Carmen, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons mettre en avant un personnage à la fois historique et presque légendaire. Je veux parler de Vidocq, célèbre pour son parcours atypique que nous allons découvrir dans sa bio. Il nous a aussi laissé quelques écrits dont nous allons lire quelques passages. Carmen, tu commences par la bio, s'il te plaît. Merci.
Oh, mais avec plaisir. Donc, Eugène François Vidocq, né le 24 juillet 1775 à Arras, dans une famille de la petite bourgeoisie. Il est le fils de Nicolas-François-Joseph Vidocq, maître boulanger et marchand de blé, et de Françoise-Joseph Dion. Intrépide, rusé et bagarreur, Eugène François commet divers larcins au cours de son enfance. Sa forte taille, à 12 ans, il a la taille d'un adulte, lui rend la besogne facile. À l'âge de 13 ans, il vole des couverts en argent à ses parents. Son père l'envoie 10 jours à la prison des Baudets, c'est la maison d'arrêt pour jeunes délinquants, pour lui apprendre à devenir honnête. À 16 ans, il vole les économies de ses parents, 2000 francs, et rejoint Ostende dans le but d'embarquer sur un bateau à destination de l'Amérique. Mais dans cette ville portuaire, il est dépouillé. Pour survivre, il devient saltimbanque dans une troupe de cirque, puis colporteur avant de revenir à Arras. En 1791, il s'engage dans l'armée révolutionnaire. Il se bat alors à Valmy et à Jemappes. Il est renvoyé du 11e régiment de chasseurs à cheval le 28 mai 1793, après une dizaine de duels. Marie-Anne-Louise Chevalier, qui se prétend enceinte de lui, le contraint au mariage. Le couple tient une épicerie à Arras, mais lorsqu'il comprend que sa grossesse était feinte, il la quitte après lui avoir volé toutes ses économies.
En décembre 1796, il est condamné par le tribunal criminel de Douai à 8 ans de travaux forcés pour faux en écriture publique et authentique. Il est incorporé dans la chaîne de Brest, un groupe de forçats que l'on enchaîne les uns aux autres, destinés au bagne de ce port. Le voyage, particulièrement éprouvant, dure 24 jours. Le 20 mai 1797, la prison de Bicêtre mentionne dans ses registres le portrait suivant. François Vidocq, marié à Marie-Anne Chevalier, demeurant lors de son arrestation à Lille, département du Nord, et en deuxième à Paris, rue Hugues 4, cours Saint-Martin, âgé de 26 ans, natif d'Arras, département du Pas-de-Calais. 1m78, cheveux et sourcils blonds, front rond, nez aquilin, long, yeux gris, la bouche moyenne et de travers, menton rond et long, visage ovale, barbe blonde, ayant une cicatrice à la lèvre supérieure, à droite, et les oreilles percées. Vidocq en profite pour tenter une première évasion en forêt de Compiègne. Ce premier échec ne le décourage pas. La chaîne de forçats parvient à Brest le 13 janvier 1798. La chaîne fait halte à l'entrée de Brest, où on procède au déferrement des bagnards. Vidocq essaie à nouveau de fausser compagnie à ses gardiens, mais il se foule les deux chevilles en tentant de sauter le mur d'enceinte.
8 jours après son arrivée, il parvient à se procurer des vêtements de matelot qu'il dissimule dans l'arsenal où il travaille. Ayant réussi à se changer, il quitte Brest sans être inquiété. De nouveau arrêté en 1799, il est cette fois envoyé au bagne de Toulon, d'où il s'évade encore une fois, le 6 mars 1800. Il acquiert de cette façon auprès des gens du milieu un respect et une notoriété sans égale. En 1809, à nouveau arrêté, il propose ses services d'indicateur à la préfecture de police. Il la renseigne d'abord en étant en mouchard dans les prisons de Bicêtre et de la Force. En 1811, le préfet de police Pasquier le place officiellement à la tête de la brigade de sûreté, un service de police dont les membres sont d'anciens condamnés et dont le rôle est de s'infiltrer dans le milieu. En 1818, Louis XVIII lui accorde sa grâce par lettre patente, ce qui lui rend ses droits civiques.
En 1827, Vidocq démissionne de ses fonctions de chef de la sûreté. Il s'installe à Saint-Mandé, près de Paris, et crée une petite usine de papier. Il invente le papier infalsifiable. En 1828-29, il publie des mémoires qui connaissent un grand succès et inspirent notamment à Honoré de Balzac, son personnage de Vautrin. Le 28 janvier 1830, il épouse sa cousine germaine, Floride Albertine Magnès, de 18 ans sa cadette. Mais, ruiné par son affaire d'usine de papier, il redevient chef de la sûreté, à 57 ans, et occupe ce poste durant 7 mois, avant de démissionner à la demande du préfet Gisquet, qui souhaite moraliser ses équipes. Ruiné, Vidocq part pour Londres, fort de sa légendaire réputation, il y donne des conférences payantes, et il vend des brevets pour des inventions de sa conception. Papier infalsifiable, serrure incrochetable. En 1848, il repart du service dans le renseignement français en se laissant emprisonner à la conciergerie durant les émeutes du 15 mai et opère comme indicateur. Le 30 avril 1857, la paralysie gagne ses jambes. Vidocq meurt le 11 mai 1857 à son domicile parisien.
Nous allons à présent vous lire un extrait d'un de ses livres, « Les vrais mystères de Paris ». Du château construit à Choisy-le-Roi en 1682 sur les dessins de l'architecte François Mansart et successivement possédé par Madame de Louvois, le grand dauphin fils de Louis XIV et la princesse de Condé, et du petit château construit en 1739, à peu de distance du premier dont le roi Louis XV venait de faire l'acquisition pour Madame de Pompadour, il ne reste plus maintenant que quelques bâtiments accessoires et les restes d'une belle terrasse contre laquelle viennent se briser les flots de la Seine et d'où l'œil découvre une campagne éminemment romantique. Le temps et les révolutions ont cependant respecté l'ancien pavillon des gardes, placé jadis à l'entrée de la cour d'honneur. Le style coquet des ornements de ce pavillon, qui sont dus aux ciseaux des sculpteurs les plus distingués de l'époque à l'école à laquelle il fut construit, est d'autant plus remarquable que l'édifice se trouve placé au centre d'un site dont les habitants du pays ne paraissent guère apprécier l'aspect pittoresque.
La route de Versailles passe sous les fenêtres de ce petit édifice. Mais cette route, tracée à cet endroit, au milieu d'un bouquet d'arbres de hautes futaies, est très peu fréquentée. On peut donc, lorsque le ciel est pur, aller de ce côté s'asseoir au pied d'un vieux marronnier ou d'un chêne séculaire, sans craindre que les chants discordants de quelques rustres ou les clameurs avinées de quelques bondrilles en goguette ne viennent interrompre les douces rêveries auxquelles on s'est livré. De la cour d'honneur, devant laquelle se trouvait placé ce pavillon, on a fait un jardin potager. De succulents légumes croissent paisiblement sur le sol foulé anciennement par les spirituels gentilshommes. Les belles et nobles dames et les jolis petits sages du temps de Louis le bien-aimé. Hélas, on file la laine, on teint des étoffes, on fabrique des allumettes chimiques. Que savons-nous dans ce qui reste des bâtiments du château de Madame de Pompadour? Celui qui serait venu dire à l'oreille marquise que moins d'un siècle après sa mort, il ne resterait plus de sa noble demeure que quelques bâtiments ruinés et un pauvre petit pavillon qui, bientôt sans doute, disparaîtra à son tour. Celui-là, certes, aurait été accueilli par un immense éclat de rire. Était-il en effet possible de croire que ce beau château, si solidement bâti, durerait moins que les gravures qu'on a faites au temps de sa splendeur, et dont nous avons vu un exemplaire. Entouré d'un modeste cadre de bois noir, chez un habitant de Choisy-le-Roi, qui le conserve comme une précieuse relique.
Le chemin de fer de Paris à Orléans a pris une partie notable de la magnifique terrasse qui existait autrefois devant le château, du côté de la Seine. Ce qu'il en reste est encore aujourd'hui le point le plus élevé de Choisy-le-Roi. Rien de plus riant, de plus animé, de plus attrayant que le paysage qui frappe les regards du spectateur qui s'y trouve placé par une belle journée d'été. Les bords de la Seine à cet endroit sont couverts d'une végétation luxuriante et semés de jolies habitations qui se détachent blanches sur le fond vert du paysage et se mirent dans le fleuve dont les ondes argentées coulent entre deux rives fleuries. Souvent, le clapotement de l'eau et une colonne de fumée qui se détache en capricieuse spirale sur le fond bleu du ciel, annonce l'arrivée d'un bateau à vapeur qui conduit à Corbeil, Arris ou à Soisy-sous-Étiole, les bons citadins qui vont oublier sous les frais ombrages les soucis de la veille et ceux du lendemain. Le pavillon dont nous venons de parler avait été réparé et décoré avec goût par les soins d'un propriétaire spéculateur. Et peu de temps avant le jour où commence cette histoire, une élégante calèche y avait amené les personnes qui venaient de le louer.
C'étaient deux hommes dont le costume et la manière annonçaient des gens distingués. Le plus jeune portait à la boutonnière de son frac le ruban rouge de la Légion d'honneur. Le plus âgé était porteur d'une de ces bonnes et joviales physionomies qui annoncent que celui auquel elles appartiennent est parfaitement content de son sort. À la rotondité de toute sa personne, l'ampleur calculée de ses habits coupés sans prétention, la magnifique épingle qui attachait sa cravate à une chemise de fine toile de Hollande et la chaîne d'or dont les nombreux anneaux brillaient sur son gilet de piqué blanc lui donnaient l'aspect d'un riche financier. Ces deux hommes, après avoir examiné avec la plus scrupuleuse attention l'habitation dont le propriétaire leur faisait les honneurs, avec cette politesse obséquieuse qui caractérise le spéculateur qui vient de terminer une excellente affaire, parurent assez contents de ce qu'ils venaient de voir. Et le plus jeune donna l'ordre aux chasseurs dorés sur toutes les coutures qui le suivaient à distance de faire décharger des voitures de déménagement qui venaient d'arriver, amenant tout un monde de domestiques et de tapissiers décorateurs.
Le propriétaire attendait avec une certaine impatience l'ouverture des caisses qui contenaient les meubles qui devaient garnir les lieux. Il était persuadé d'avance qu'ils étaient d'une valeur plus que suffisante pour répondre des loyers. Cependant, il était bien aise de les voir. Son attente ne fut pas trompée, tous les meubles étaient neufs et du meilleur goût. D'autres caisses refermaient de magnifiques cristaux, des porcelaines peintes et dorées, de l'argenterie et bien d'autres choses encore. Les tapissiers décorateurs, aidés par les domestiques du nouveau locataire, eurent bientôt mis tout en place. Cela fait, les étrangers, après avoir donné à tout le coup d'œil du maître et fait rectifier ce qui ne leur parut pas convenable, se retirèrent, emportés par le brillant véhicule qui les avait emmenés. Tant que dura la belle saison, ils reçurent à leur pavillon belle et nombreuse compagnie. Mais au commencement de l'automne qui suivit, tous les services furent emballés et remportés à Paris. Les étrangers ne firent plus à Choisy-le-Roi que de rares apparitions et les volets et les portes du pavillon restèrent constamment fermés.
Cette histoire commence vers la fin d'une sombre journée du mois de février. L'aspect du paysage dont nous avons esquissé les traits principaux est bien changé. Le loriot au plumage doré ne siffle plus sous la ramée. Les bateaux à vapeur ne glissent plus joyeusement sur les ondes unies de la Seine. Le soleil n'éclaire plus les habitations qui couronnent les deux rives du fleuve. Le ciel d'un gris terne ressemble à une immense nappe de plomb. Une pluie fine qui tombe depuis le matin avec un but monotone à détremper le sol qui est couvert de larges flaques d'eau. Le vent gémit à travers les vieux arbres. Les eaux du fleuve, si limpides lorsqu'elles réfléchissaient l'azur d'un beau ciel, sont devenues ternes et limoneuses.
Deux hommes, misérablement vêtus, rôdaient depuis quelques instants autour du pavillon des gardes. Avec la nuit, le froid était devenu si vif et avait converti en brillants stalactites chaque goutte de pluie qui s'était arrêtée sur les rameaux dépouillés. Il n'apparaissait pas de lumière à l'intérieur. Les deux hommes, qui marchaient près l'un de l'autre, s'arrêtèrent au même instant, comme s'ils avaient obéi à la même pensée. Tout était calme autour d'eux. Seulement, à de rares intervalles, on entendait retentir le son aigu du sifflet des conducteurs de wagons ou les aboiements du chien de garde de quelques fermes isolées. « Tu le vois, je ne me suis pas trompé !» dit à voix basse à son compagnon l'un des deux hommes. « La maison n'est pas habitée. »«
C'est bien, il ne s'agit plus que d'entrer. Tu as les haleines ?»«
Comme tu dis, Fifi. »
L'homme releva un vieux bourgeon de toile bleue qui composait avec un mauvais pantalon de treillis, un costume très peu capable de le défendre contre les rigueurs de la saison, et fit voir à son camarade que son buste était entouré d'une corde de grosseur moyenne. « Voilà la corde, dit-il. »«
C'est tout ce qu'il faut. J'ai une lanterne sourde, des allumettes et des fausses clés dans les poches de ma redingote. »«
Tu es bien heureux d'avoir une redingote, car il fait diablement froid. » En effet, le givre tombait sur les membres presque nus du misérable, qui s'était débarrassé de la corde qui ceignait son corps. Des petits glaçons pendaient avec les poils incultes qui ombrageaient sa lèvre supérieure, ses dents claquaient avec force. Il se tenait courbé et il se battait les flancs sans pouvoir parvenir à se réchauffer. « Allons, du courage !» lui dit son compagnon. « Si le vol est bon, tu pourras demain matin acheter des habits au temple. »
Oh que oui, j'irai au temple et que je m'achèterai une castorine toute neuve et doublée en soierie. Tout en parlant, l'homme avait cherché sur le sol et il avait ramassé une pierre d'une certaine grosseur. Voilà ce qu'il nous faut, dit-il. L'autre individu, qui avait fait plusieurs nœuds à la corde, attacha la pierre à l'une de ses extrémités et la lança sur le chaperon du mur. La pierre tomba de l'autre côté. Il tira la corde à lui, il s'y cramponna avec force, et lorsqu'il se fut assuré qu'elle était bien assujettie,
« À cheval, dit-il. » Il s'est suspendu à la corde, et en un instant, il eut atteint la crête du mur sur lequel il se mit à cheval. Son camarade l'imita.
Ils n'eurent besoin pour descendre que de répéter la même manœuvre. Après avoir traversé la cour, ils se trouvèrent sur un élégant péristyle devant une porte en chêne qui paraissait solide. De chaque côté de cette porte, il y avait des fenêtres à hauteur d'appui qu'ils examinèrent d'abord. Ces fenêtres étaient fermées de fortes persiennes assujetties par de larges barres de fermeture en fer méplat et à clavettes et fermées à l'intérieur par des cadenas à secret. « Il y a des cadenas aux fenêtres ? Impossible d'entrer par là. Voyons la porte. »«
Tiens, c'est une entrée tourmentée. »«
Forêt ?
Non, Bénard.
C'est bon, nous pourrons peut-être bien ouvrir. Les Delaron avaient essayé presque toutes les fausses clés de leur trousseau lorsque la porte roula sur ses gonds. Ils s'arrêtèrent quelques instants. « Prêtons l'oreille, » dit l'un d'eux, avant de se déterminer à entrer.
« Je n'entends rien, » répondit l'autre. « Donne la chandelle. »
« La piole est riche, il doit y avoir beaucoup à prendre. » Ils venaient de fermer la porte du vestibule et ils se croyaient chez eux lorsqu'ils entendirent le bruit des pas de deux personnes qui marchaient sur le gravier de la route et qui s'arrêtèrent devant la grille qui défendait l'entrée de la cour. Une clé tourna dans la serrure, la grille fut ouverte et deux hommes, enveloppés de larges manteaux, entrèrent dans la cour et se dirigèrent vers la maison après avoir fermé avec soin. Les premiers arrivés avaient vu à travers deux guichets à claire-voie pratiqués dans les panneaux de la porte tout ce qui venait de se passer. « Merci, nous sommes pris sur le fait, » dit le plus misérable des deux. « Planquons-nous. » Il tremble toujours ce délicat. « N'avons-nous pas des couteaux bien affilés ?»«
Oui, mais ces deux hommes paraissent de taille à se défendre. Le plus sûr est de nous cacher. Nous trouverons peut-être notre belle lorsqu'ils seront dans le pieu. S'il faut les refroidir, ma foi... » Après ces quelques paroles échangées, rapidement et à voix basse, ils se blottirent derrière la porte d'un petit dégagement, après avoir éteint la bougie de leur lanterne sourde. Il était temps. Les nouveaux venus entraient dans la pièce qu'ils venaient de quitter, et peu d'instants après, ils allumaient une lampe. Les larrons cachés dans le petit dégagement ne pouvaient rien voir, mais ils pouvaient tout entendre. « Qui de nous ira à la cave ?» dit un des nouveaux venus.
« Ce sera vous, monsieur le marquis. »
« Soit. Pendant ce temps, monsieur mon intendant, vous ferez du feu. J'ai besoin de me réchauffer un peu. » Le marquis prit une clé accrochée au mur, près de la porte du dégagement, et sortit de la salle.
« As-tu entendu ?» dit délicat à son camarade. « Il paraît que c'est des hommes comme il faut. Un marquis et un intendant. »«
Veux-tu bien te taire ?» Là le marquis qui réplique.
Le marquis rentrait en effet par la salle qu'il venait de quitter. Le feu flambait dans l'âtre. Il prit deux verres et quelques biscuits dans une armoire.
« Voilà, dit-il, une de ces vieilles bouteilles du Clos Vougeot que nous ne débouchons que dans les grandes occasions. À la santé du père Loiseau.
»« Ce pauvre orfèvre n'est pas à l'heure qu'il est aussi content que nous. »«
Il faut en convenir. Ce vicomte de Lussan est une véritable providence. Il est comme le solitaire. » Il sait tout, il voit tout, il est partout.
Tu lui as donné sa part ?
Oui, 10 000 balles, en billets de banque. Il s'est contenté de cela, le vicomte est raisonnable.
Et prudent, les billets n'ont pas de nom.
Voyons un peu cette camelote.
Entends-tu comme il parle argot ? Dit délicat. C'est des voleurs.
T'as raison, c'est des voleurs, et du grand jar encore.
Et qui viennent de faire un fameux vol.
Regarde, ces boucles d'oreilles. Disait le marquis à son intendant, tandis que délicat et son compagnon causaient à voix basse dans les petits dégagements. Tant de bagues, d'épingles, des chaînes et des diamants sur papier. Il y en a pour plus de 50 000 balles.
Tu vois, mon cher marquis, que je travaille toujours aussi bien. Soit dit entre nous, bon cheval n'est jamais rosse.
C'est vrai.
Les fausses clés ouvraient bien, n'est-ce pas ?
Le père Loiseau n'aurait pas ouvert plus facilement avec ses clés.
Le marquis tira sa montre.
« Bientôt 9 heures, dit-il. Il est temps de partir. Nous avons beaucoup de choses à faire ce soir. Va porter la camelote à la planque et partons. Nous vendrons plus tard au receleur. »
L'intendant réunit dans la forme de son chapeau plusieurs petites boîtes de maroquins verts et rouges qu'il en avait tirées et sortit de la pièce. « C'est fait, dit-il en rentrant après une absence de quelques minutes. Maintenant, partons. »
« Quelle chance, mon vieux Coco des Braises. Ils vont partir. »«
Oui, qu'ils partent, et nous dirons 2 mots à la cachette de ces rupins. » Après le départ du marquis et de son intendant, délicat et Coco des Braises sortirent de leur dégagement dans lequel ils s'étaient tenus blottis, dans l'espérance de découvrir la cachette dont ils avaient entendu parler. Ils se disposaient à briser les meubles, mais les clés étaient sur toutes les serrures et tous les meubles étaient vides. Ils cherchèrent avec un acharnement sauvage sans pouvoir rien trouver. Ils voulurent enfin se venger sur la cave dont ils ouvrirent la porte avec la clé accrochée dans la salle à manger. Mais cette cave, comme tous les meubles qu'ils avaient déjà visités, était complètement vide. Ils y trouvèrent seulement une bouteille de vin blanc qu'ils vidèrent en deux coups.
En voilà une dure, en voilà une criminelle. C'est un marquis dit délicat. C'est le diable qui s'en mêle.
Tout ça n'est pas naturel, répondit Coco des Braises. Mais où donc ont-ils planqué la camelote ?
J'en perds la tête. Si tu veux, nous allons recommencer à fouiller, partout. La camelote est ici, c'est sûr, il faut la trouver. Nos nouvelles recherches furent tout aussi infructueuses que celles qui venaient d'être faites. Rien, dit Coco des Braises, qui paraissait en proie à une violente colère.
Foi de bon camarade, répondit délicat. Si tu veux, nous allons mettre le feu à la maison, puisque nous ne pouvons rien trouver.
Ça ne serait pas juste. Ils ne sont peut-être pas les propriétaires.
Pourquoi que ça ne serait pas eux, puisque l'un de ces voleurs est marquis et que l'autre est son intendant ? C'est-il drôle que des nobles qui soient nobles soient des voleurs, et des bons voleurs encore.
C'est vrai que c'est drôle, car s'ils sont richards, au point qu'ils risquent leur peau pour voler.
Dis donc, si c'était des mouchards ?
En voilà une bêtise. Si c'était des mouchards, est-ce qu'ils seraient marquis et intendants ? Ah, que je marronne de n'avoir pas pu les regarder.
As-tu remarqué comme ils parlent ? Qu'on dirait des charabias ou des gascons ?
En tout cas, ils sont vicieux, les coquins, d'avoir si bien planqué leur camelote.
T'as raison. Mais quand on est si riche, s'exposer à aller aux galères, c'est être fou.
C'est peut-être une passion. Mais quand on a des chopins de 50 000 balles à fourguer, on peut bien risquer quelque chose. C'est-il ça ? Un vol ? Sont-ils heureux, les scélérats ?
T'auras beau te manger le cerveau, tu n'empêcheras pas que ce soit comme ça. L'eau va toujours à la rivière.
Tout en conversant, délicat et Coco des Braises avaient parcouru la maison dans tous les sens. Mais à leur grand regret, ils n'avaient rien trouvé de bon à prendre. Seulement, délicat, ayant découvert dans une remise une redingote et un pantalon oublié depuis longtemps et couvert de poussière, voulut absolument s'en vêtir. Délicat et Coco des Braises employèrent pour sortir du pavillon le moyen qui leur avait servi pour y rentrer. Et après avoir suivi quelques instants un petit sentier tracé à travers les terres labourées, ils se trouvèrent sur la route pavée qui conduit à Paris. « Nous avons un bon ruban de queue, d'ici à Pantin, » dit Coco des Braises.
« C'est égal, » répondit délicat. « Je n'ai plus peur du froid. » Et puis, je puis aller jusqu'au bout du monde maintenant que j'ai un pantalon et une redingote sur les épaules. Le marquis et son intendant, qui avaient pris le chemin de fer pour revenir à Paris, se quittèrent à la station. L'intendant était monté dans un cabriolet et le marquis avait continué sa route à pied, le visage à moitié couvert par un cache-nez et le corps bien enveloppé dans son manteau. Arrivé sur le boulevard de l'hôpital, il s'arrêta quelques minutes, puis il revint sur ses pas. Après avoir recommencé plusieurs fois la même manœuvre, il entra dans une maison sans portier, dont la porte était fermée par une serrure à secret. Il gravit lestement 4 étages et entra dans une petite pièce carrée dont il ferma soigneusement la porte. Sans perdre de temps, il quitta le costume assez élégant dont il était couvert pour se revêtir de celui que portent habituellement les patrons ou les conducteurs de bateaux. Cela fait, il sortit, et après avoir traversé le quai, il descendit sur la berge, puis détacha un bateau du piquet auquel il était retenu et s'abandonna au cours de la Seine. Arrivé à la hauteur de la place de l'Hôtel de Ville, et après avoir solidement amarré son bateau à l'un des gros anneaux de fer scellé dans le parapet, il s'engagea dans l'étroite et sombre ruelle à laquelle on a donné le nom de rue des Teinturiers. Voilà, nous espérons que cet extrait de « Vrai mystère de Paris » de Vidocq vous a plu. Et...
Ah, je trouve ça très intéressant, Carmen.
Oui, mais flippant. Je n'irai pas m'aventurer dans ces rues-là.
Ah.
Je préfère continuer à le dire là, sur, à Fréquence Mistral, dans « Bien littérairement vôtre ».«
Bien littérairement vôtre ».